Donc je vous rappelle, aujourd'hui c'est la dernière séance de cette année universitaire et donc notre dernier séminaire aura lieu tout à l'heure à 11h. Il sera donné par Chiara Forte du laboratoire européen de spectroscopie non linéaire. Alors on m'a dit que le titre avait légèrement changé parce qu'il y a des résultats nouveaux qui ont été obtenus. Qui parlera vraisemblablement de mélange de condensats de Bose-Einstein et d'interférences d'ondes de matière. Le titre exact, je le donnerai tout à l'heure. Bien. Alors, avant de commencer aussi, je voudrais préciser une réponse à une question qui m'a été posée à la fin du cours de la semaine dernière. Je vous ai fait j'ai terminé mon cours par un appendice sur la superradiance en parlant d'un milieu complètement inversé où tous les atomes sont mis dans l'état supérieur d'une transition entre deux niveaux. Alors on m'a demandé si c'était possible de réaliser une inversion totale entre deux niveaux. La réponse est oui. On peut d'abord faire une impulsion pi suffisamment intense pour porter tous les atomes dans le niveau supérieur d'une transition ne comportant que deux niveaux. En fait, la plupart des expériences de superradiance ne sont pas faites de cette manière. Elles sont faites en prenant un atome qui a beaucoup de niveaux et on excite un niveau ici. On part par une transition à un ou deux photons. On excite un niveau excité, en général par exemple un niveau de Rydberg, et à ce moment-là, on a évidemment une inversion totale de population entre ce niveau très excité et un niveau moins excité que lui. Et on regarde la superradiance sur une transition complètement inversée. Donc, il est tout à fait possible de réaliser des inversions totales de population entre deux niveaux et d'observer le phénomène de superradiance que j'ai décrit à la fin de la semaine dernière. Bien. Alors, aujourd'hui, j'aborde un nouveau chapitre concernant les problèmes d'interaction d'un condensat de Bose-Einstein avec un faisceau lumineux. Et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut amplifier aussi de la lumière, amplification d'ondes optiques. Par un condensat de Bose-Einstein. Et je voudrais d'abord, si vous voulez, faire une étude qualitative, une explication simple du gain. Explication simple du gain optique. Alors, dans les derniers cours, les deux derniers cours, j'ai montré tout d'abord, il y a deux semaines, qu'un condensat de Bose-Einstein excité par un faisceau laser pompe, K0, intense, peut spontanément générer une onde de matière et une onde lumineuse par superradiance. Ce que j'avais appelé la diffusion Rayleigh superradiance. Ça, c'est spontané. Il y a uniquement le faisceau laser pompe, le condensat de Bose-Einstein, et au-dessus d'un certain seuil, il apparaît spontanément une onde lumineuse et une onde de matière. Puis, le cours suivant, j'ai montré que un condensat de Bose-Einstein pompé, excité par un faisceau laser pompe, peut amplifier une onde de matière incidente. Ça, c'était donc le cours de la semaine dernière. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que un condensat de Bose-Einstein, que j'ai dessiné ici, pompé par un faisceau laser pompe, K0, peut amplifier une onde lumineuse incidente. Donc maintenant, je fais rentrer non plus une onde de matière, mais une onde incidente, KI, et à la sortie, j'ai une onde lumineuse qui est amplifiée par le condensat pompé par le faisceau laser K0. Alors, est-ce qu'on peut se donner une image simple du gain optique? C'est exactement la même démarche que dans le cours précédent. Quand un condensat est excité par deux ondes optiques, le faisceau pompe et le faisceau sonde, KI, si la fréquence du faisceau sonde est convenablement réglée, il peut y avoir ce qu'on appelle une résonance de Bragg entre deux états, l'état du condensat et un état excité. Je vais redessiner pour la énième fois ce diagramme ici, donnant les excitations élémentaires d'un condensat. avec un départ linéaire qui représente les phonons, puis qui devient parabolique. Ça, c'est pas un condensat homogène, mais ça, c'est très voisin aussi pour quelque chose, un condensat inhomogène. Si le condensat est ici, s'il est excité par deux ondes laser, il peut absorber un photon K0, non résonnant, bien sûr, on est à une distance H bar delta de l'état excité, et puis il peut émettre par émission stimulée le photon sonde KI, et atteindre cet état, cette excitation élémentaire, dont le vecteur d'onde est appelé KJ. Alors, il faut bien sûr que la différence de fréquence entre K0 et KI soit réglée pour qu'on tombe sur la courbe des excitations élémentaires. Donc, si on règle convenablement la fréquence KI du faisceau laser sonde, on va exciter une excitation élémentaire sous forme d'une onde de matière, et cette onde de matière va interférer avec le condensat pour donner un réseau de densité dont les plans d'égale densité sont perpendiculaires au vecteur d'onde KJ égale K0 moins KI. Donc toujours la même histoire, apparition d'une onde de matière, interférence avec le condensat, réseau de densité, et ce réseau de densité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffracter le faisceau laser sonde dans la direction correspondante à l'accord de phase, et cette direction correspondant à l'accord de phase n'est autre que KI. Donc, le faisceau pompe et le faisceau sonde créent une onde de matière, elle interfère avec le condensat, le faisceau pompe est diffracté par cette onde de matière, il est diffracté dans la direction KI, ce qui augmente l'intensité lumineuse dans la direction KI, ce qui fait une amplification. Quand ceci augmente, quand KI augmente, l'onde de matière créée par K0 et KI augmente, la diffusion augmente encore, et c'est un processus, c'est une instabilité qui va conduire à une amplification. Donc c'est symétrique du mécanisme que j'avais donné la semaine dernière pour expliquer l'amplification de l'onde de matière. Alors ici, quelques remarques. D'abord, la résonance de Bragg, qui est marquée ici, il faut bien voir que c'est une résonance étroite. Quand on fixe K0 et qu'on balaye la fréquence de KI, la résonance apparaît dans une bande de fréquence très étroite, parce que ce qui compte pour la largeur de la résonance, c'est le temps d'amortissement de la cohérence entre cet état et cet état. C'est ce que j'ai appelé précédemment le temps de cohérence du réseau de densité. C'est le temps que met, grosso modo, l'excitation élémentaire pour quitter le condensat, l'inverse de la largeur Doppler. Donc c'est une largeur très petite, de l'ordre du kilohertz. Donc, l'amplificateur dont on parle ici, c'est un amplificateur à bande étroite. C'est un amplificateur qui ne fonctionnera que quand KI est dans une bande étroite. Et une petite remarque, j'ouvre une parenthèse ici, comme l'amplificateur est à bande étroite, l'indice de réfraction du milieu va varier de manière très rapide dans un intervalle de fréquence très petit, et ceci va conduire à des modifications spectaculaires de la vitesse de groupe, et en particulier à des ralentissements de la vitesse de groupe, des ralentissements de la vitesse apparente de la lumière, qui peuvent être considérables, et qui ont été observés. Deuxième remarque que je voudrais faire. Ici, dans l'expérience que je décris en ce moment, on a le condensat qui est pompé, et on a une onde incidente qui arrive sur lui, une onde lumineuse incidente qui arrive sur lui, qui se propage dans l'espace libre. Imaginez qu'on enferme le condensat dans une cavité optique accordée sur KI. À ce moment-là, si le gain est suffisant, on va avoir un laser. D'accord ? Ça va être un laser qui va utiliser le mécanisme d'amplification que j'ai donné tout à l'heure. Et des mécanismes d'oscillation de ce type, basés sur une diffusion de Bragg ou basés sur des résonances induites par le recul, ont été très étudiés dans les années qui se sont écoulées, en particulier par Rodolfo Bonifacio, et c'est ce qui s'appelait Coherent Atomic Recoil Laser, le mécanisme CARL. Il y a une analogie profonde donc, entre les mécanismes dont je parle aujourd'hui, qui sont des mécanismes d'amplification d'une onde extérieure, et des mécanismes d'oscillation spontanée, d'oscillation laser, utilisant le phénomène de recul. Parce qu'évidemment, ici, c'est un phénomène de recul, et ceci a été étudié. J'ai donné quelques références qui sont loin d'être exhaustives, parce qu'il y a une énorme littérature qui a été publiée là-dessus, mais à partir de ces références, vous pouvez, si vous êtes intéressé, retrouver l'ensemble de ces recherches. Alors, avant de commencer une étude plus importante, je voudrais donner la liste de quelques paramètres physiques importants et quelques questions qu'on peut se poser. Alors, il y a trois paramètres qui vont jouer un rôle important. D'abord, cette transition à deux photons introduit un couplage effectif entre cet état et cet état, un système à deux niveaux, et tout couplage cohérent entre deux systèmes à deux niveaux, on peut lui associer une fréquence de Rabi. Et un premier paramètre important, ça va être la fréquence de Rabi oméga de la transition à deux photons couplant l'état K égale 0 à l'état KJ. Un deuxième paramètre important, dont j'ai déjà dit un mot, ça va être gamma J, le temps de cohérence, ou plutôt le taux d'amortissement de la cohérence entre l'état 0 et l'état KJ. Le temps de cohérence, l'inverse du taux de cohérence du condensat, la largeur Doppler du condensat liée par exemple à son extension spatiale finie. Donc ça c'est un mécanisme de perte. Il y a un troisième paramètre qui va jouer un rôle important, nous allons voir, ça va être GJ, que j'ai déjà introduit dans les séances précédentes, qui est le gain de l'onde de matière pour le processus de superradiance que j'ai étudié il y a 2 semaines et que j'ai retrouvé le même gain dans le cours de la semaine dernière quand j'ai calculé l'amplification du nombre de matière. Et nous allons voir que ces trois paramètres jouent un rôle important et que suivant leur valeur relative, il y a des phénomènes tout à fait différents qui peuvent être observés. Et par exemple, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on peut définir un gain pour l'onde optique? Est-ce que les phénomènes correspondent à une oscillation de Rabi entre les deux états que j'ai marqués ici? Ou est-ce qu'ils correspondent à une décroissance exponentielle de l'état initial? Est-ce qu'on peut parler en termes de probabilité de transition par unité de temps? Ou est-ce qu'il faut plutôt introduire la notion d'oscillation de Rabi? D'ailleurs, c'est une des questions qui m'a été posée par Chris à la fin du cours dernier. Nous allons voir là ici le rôle important joué par la valeur relative de grand oméga et de gamma J. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand, pour une onde incidente donnée, sonde, on augmente l'intensité pompe jusqu'à arriver au seuil de superradiance? Qu'est-ce qui va se passer sur le gain? Voilà un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Alors, après cette entrée en matière qualitative, je voudrais maintenant prendre une démarche plus précise et faire un traitement plus précis. Et comme toujours dans ces problèmes d'interaction matière-rayonnement, un outil idéal, c'est les équations de bloc optique. C'est les équations de bloc optique qui vont décrire l'évolution dans le temps de la matrice densité atomique entre cet état et cet état. Ça va être une matrice 2-2 entre l'état K égale 0 et l'état K égale KJ. Il faudra donc étudier partir de ces équations de bloc optique. Alors, en général, quand on fait les équations de bloc optique, les fréquences de Rabi qui apparaissent sont des constantes, des paramètres fixes. Comme ici, on a un phénomène d'amplification, si le gain est suffisant, les champs vont croître au cours du temps, et on ne pourra plus considérer la fréquence de Rabi dans les équations de bloc optique comme une constante. Elle augmentera à cause du processus d'interaction lui-même. Donc à ce moment-là, le problème n'est pas, les équations de bloc optique ne suffisent pas, il faut ajouter une équation décrivant comment l'amplitude du champ laser augmente. Il faudra donc écrire une équation décrivant l'évolution dans le temps de la fréquence de Rabi. En d'autres termes, ça rappelle ce qui est fait couramment en optique quantique, qu'on ajoute aux équations de bloc les équations de Maxwell qui décrivent la propagation du champ, et on a à résoudre les équations de bloc Maxwell couplées. Et quand on écrit, par exemple, une théorie du laser semi-classique, il faut partir des équations de Bloch Maxwell et les résoudre moyennant certaines approximations. Alors ici, on va suivre un peu ce schéma général, mais il y a une condition, on est dans un régime complètement différent du régime habituel. D'habitude, quand on étudie un laser, le milieu atomique est placé dans une cavité, et le temps de vie de la cavité, qui a une très grande surtension, le temps de vie de la cavité est en général beaucoup plus long que le temps d'amortissement des cohérences atomiques, que le temps de l'amortissement des grandeurs atomiques. Et à ce moment-là, on peut éliminer adiabatiquement les variables atomiques et obtenir une équation pour le seul champ. Ici, on a l'inverse. Comme on n'a pas une cavité, ici, je l'ai bien dit, je n'ai pas une cavité optique, j'ai un champ laser incident qui arrive sur le condensat, les constantes de temps caractéristiques de l'évolution du champ vont être le temps que met un photon à s'échapper du condensat. Et ce temps, c'est L sur C, il est extrêmement court. Il est beaucoup plus court que le temps d'amortissement des grandeurs atomiques. Donc on est dans un régime opposé où les grandeurs du champ évoluent beaucoup plus vite que les grandeurs atomiques et où il n'est pas suite possible d'éliminer adiabatiquement le champ pour obtenir une équation atomique, contenant bien sûr le mécanisme de gain. Donc on va essayer de faire cette démarche générale dans la suite. Alors auparavant, il me semble important de rappeler quelques... Dans les articles auxquels je vais me référer par la suite, ces calculs intermédiaires ne sont pas faits. Ça rend un petit peu la lecture de l'article difficile. Il m'a semblé intéressant de revenir un peu sur quelques paramètres physiques importants et surtout sur les liens qui existent entre les paramètres physiques. Alors, d'abord, les fréquences de Rabi. Il y a plusieurs fréquences de Rabi dans le problème. D'abord, il y a la fréquence de Rabi oméga 1 du faisceau laser pompe, qui est le produit de l'élément de matrice du dipôle par le champ électrique de l'onde laser pompe K0. Je l'appelle oméga 1. Il y a bien sûr la fréquence de Rabi oméga prime 1 associée au faisceau sombre, qui est beaucoup moins intense, et que j'appelle oméga prime 1, qui est le produit de l'élément de matrice du dipôle par l'amplitude du champ laser sombre. Et enfin, il y a la fréquence de Rabi effective de la transition à deux photons entre l'état K égale 0 et l'état K égale J, obtenue après absorption de K0 et émission stimulée de KI. Alors, j'ai dessiné ici le diagramme perturbatif décrivant le processus à deux photons. Absorption de K0 à partir de G, atome fondamental K égale 0. On arrive à une distance H bar delta de l'état excité et K0. Et puis on émet de manière similaire le photon KI, et on arrive à un état G, K égale KJ, ou KJ égale K0 moins KI. Alors quand on calcule l'élément de matrice au deuxième ordre qui couple les deux états, on a le produit de l'élément de matrice de couplage entre cet état et cet état qui est H bar oméga 1 sur 2, un dénominateur d'énergie 1 sur H bar delta, qui multiplie l'élément de matrice de l'autre couplage, H bar oméga prime 1 sur 2, et on a donc un couplage effectif, calculé au deuxième ordre de la théorie des perturbations, qu'on appelle H bar grand oméga sur 2, et cette formule me montre que la fréquence de Rabi à deux photons, oméga, c'est le produit des fréquences de Rabi à un photon, oméga 1, oméga prime 1, divisé par 2 delta. Delta est le désaccord à résonance. Voilà donc une première relation. Deuxième relation, on a souvent parlé de taux de diffusion Rayleigh d'un seul atome. Si on envoie le faisceau laser K0 sur un seul atome, il va avoir une diffusion de Rayleigh. Et il va avoir une certaine probabilité par unité de temps que l'atome diffuse un photon incident. Et ça, c'est ce que j'appelais le taux de diffusion Rayleigh R1 à un atome. Alors, est-ce qu'on peut le calculer simplement? Alors, ça, c'est le taux de départ de l'état fondamental. Quand j'envoie sur l'état fondamental, un certain nombre de photons K0. Alors, dans le formalisme de l'atome habillé, on part d'un état G, N0 plus 1, qu'on a, donc l'atome est dans l'état G, il arrive N0 plus 1 photon sur lui, et cet état est couplé à l'état E, N0, l'atome monte dans E, il y a un photon de moins. Et là, je suis hors résonance. La différence entre les deux états, c'est H bar delta, où delta est le désaccord. Alors, sous l'effet de ce couplage, l'état fondamental va être contaminé par l'état auquel il est couplé. Donc au lieu d'avoir l'état G N0 plus 1, je vais avoir l'état G N0 plus une petite contamination de l'état E N0, et cette contamination sera l'élément de matrice H bar oméga 1 sur 2 divisé par le dénominateur d'énergie, le désaccord H bar delta. Donc la contamination de l'état fondamental par l'état excité, c'est oméga 1 sur 2 delta. À cause de cette contamination, l'instabilité de l'état excité, qui est gamma, va être partiellement communiquée à l'état fondamental. Elle va être contaminée avec un poids qui est le carré du coefficient de contamination. Donc l'état fondamental va acquérir une instabilité gamma prime qui va être gamma que multiplie le coefficient de contamination au carré oméga 1 sur 2 delta au carré. Et ceci, cette instabilité de l'état fondamental, ce n'est rien d'autre que la probabilité par unité de temps que l'atome quitte l'état fondamental, c'est-à-dire le taux de diffusion Rayleigh. Donc le taux de diffusion Rayleigh, c'est gamma que multiplie le carré du coefficient de contamination, c'est oméga 1 carré sur 2 delta, delta 2. Et nous voyons qu'il est proportionnel à l'intensité oméga 1 carré du faisceau laser pompe, et il est d'autant plus petit qu'il varie comme 1 sur le carré du déjacob. Alors, troisième relation que je voudrais introduire, dans les fréquences de Rabi apparaît l'élément de matrice du dipôle atomique. Ça, ça apparaît dans oméga 1 et dans oméga prime 1. Cet élément de matrice du dipôle atomique apparaît aussi dans la probabilité de désintégration radiative de l'état excité. Il apparaît donc aussi dans gamma, la largeur naturelle de l'état excité. Et on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. Donc, il y a une relation importante et utile qui permet d'exprimer gamma, la largeur naturelle de l'état excité, en fonction de l'élément de matrice petit g, d et delta du dipôle électrique. Alors, on peut partir de l'état excité dans le vide, calculer par la règle d'or de Fermi la probabilité par unité de temps qu'il émette spontanément un photon dans tout l'espace, intégré sur les angles, ça fait intervenir l'élément de matrice de la Hamiltonienne d'interaction, ça fait intervenir delta, ça fait intervenir de pi sur h bar, la densité d'état. C'est un calcul qui est fait en détail dans la référence que je donne là, dans un exercice corrigé, et on trouve une relation précise entre gamma et delta. Gamma est proportionnel à delta au carré, et le coefficient de proportionnalité, c'est oméga 0 cube, delta 2. L'oméga 0 cube, on voit que l'émission spontanée est un phénomène qui est de plus en plus important quand la fréquence augmente. Il est négligeable dans le domaine des radiofréquences, il devient très important dans le domaine optique, encore plus important dans le domaine gamma, divisé par des constantes fondamentales, 3 pi, epsilon 0, h bar c'est 3. Donc, quand je vois delta dans un calcul, je peux le remplacer par gamma et réciproquement. Dernière relation que je voudrais établir, c'est le nombre de photons sondes qu'il y a dans le volume du condensat. Alors, j'appelle N' photon, N' P, le nombre de photons sondes contenus dans le volume V du condensat. À quoi est égal ce nombre de photons? Eh bien, il est égal à l'énergie totale du champ contenu dans ce volume, est liée au faisceau sonde, divisé par l'énergie d'un photon sonde. Donc, c'est epsilon 0 sur 2 E' au carré, ça c'est l'énergie totale du champ laser sonde, par unité de volume, que multiplie V, multiplie le volume du condensat, divisé par H bar oméga 0. Bon, alors, E', le champ électrique du laser sonde, je peux le réexprimer en fonction de la fréquence de Rabi oméga prime 1. En effet, j'ai H bar oméga prime 1, c'est l'élément de matrice du dipôle delta qui multiplie E'. Donc j'ai E' au carré égale H bar 2 oméga prime 1 carré divisé par delta 2. Delta 2, je peux le remplacer en fonction de gamma ici. Je remplace oméga 0 par CK0 et K0 par 1 sur lambda bar, où lambda est la longueur d'onde optique. Et j'obtiens E' au carré égale h bar 2 oméga prime 1 carré sur gamma 3 pi epsilon 0 h bar lambda q. Et j'obtiens finalement pour n' p égale oméga prime 1 carré v divisé par gamma fois 6 pi lambda cube oméga 0. Et comme oméga 0 c'est 1 sur lambda bar cube, lambda bar, j'ai oméga prime 1 carré v sur gamma 6 pi c lambda bar carré. Le nombre de photons sondes dans le volume est proportionnel au volume, il est proportionnel à l'intensité du champ sonde, et puis il est inversement proportionnel au carré de la longueur d'onde optique. Alors, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, je voudrais faire apparaître ici la fréquence de Rabi, non pas oméga prime 1, mais la fréquence de Rabi du processus à deux photons. Bien, c'est facile. Si je multiplie en haut par oméga 1 carré sur 4 delta 2, je ferai apparaître oméga prime 1 carré, oméga 1 carré sur 4 delta 2, c'est oméga 2. Il faut aussi que je multiplie par oméga 1 carré sur 4 delta 2 en bas. j'aurai gamma oméga 1 carré sur k delta 2, qui est le taux de diffusion Rayleigh. Donc, en multipliant haut et bas par oméga 1 carré sur k delta 2, je fais apparaître cette expression, et j'obtiens finalement que n'p, le nombre de photons sonde dans le volume du condensat, c'est le carré de la fréquence de Rabi à deux photons, le volume du condensat, divisé par le taux de diffusion Rayleigh à une particule, et que multiplie des constantes, si pi c'est lambda bar carré. Voilà une troisième relation utile. Bon, ces relations utiles étant écrites au tableau, je reviens maintenant au corps du cours lui-même, et maintenant nous allons introduire les équations de bloc optique. Alors, je ne vais pas bien sûr vous redémontrer les équations de bloc optique. Les équations de bloc optique donnent l'évolution de la matrice densité ρ, Ij, où les indices I et J peuvent prendre des valeurs soit 1, soit 2, 1 étant le condensat, l'état atomique K égale 0, 2 étant l'état atomique K égale KJ, c'est l'onde sortante, c'est l'excitation élémentaire excitée par la transition à deux photons. Et on a donc ρ1,1, ρ2,2, ρ1,2, ρ2,1, la matrice densité. En général, on choisit une normalisation telle que ρ1 plus ρ2,2 égale 1. D'accord ? On normalise la matrice densité à 1. Et à ce moment-là, ρ1 moins ρ2,2, ça représente en quelque sorte la différence de population entre les deux états. Alors, au lieu d'utiliser ρ1,2, ρ2,1, ρ1, ρ2,2, on utilise en général la partie réelle de ρ1,2, la partie imaginaire de ρ1,2 et ρ2,2 moins ρ1,1. Et ici, je suis des notations de l'article de Ketterle que je vais citer, que je vais étudier tout à l'heure. C'est légèrement différent des notations qui sont dans le bouquin Interaction entre atomes et photons. Il y a des facteurs 2 différents, mais c'est pas grave. On prend V égale 2 à parfois la partie imaginaire de ρ1,2 et W égale ρ2,2 moins ρ1. À ce moment-là, les équations de bloc apparaissent comme un système différentiel linéaire qui relie V, W et U. U, c'est la partie réelle de ρ1,2. Et j'écris ici des équations de bloc, c'est V' égale moins gamma sur 2 moins gamma J sur 2 V moins oméga W et W' égale oméga W. Alors, les paramètres qui apparaissent dans les équations de bloc, c'est gamma J. Donc gamma J, c'est le temps d'amortissement, c'est le taux d'amortissement de la cohérence V entre 1 et 2. Et c'est ce que j'ai introduit comme paramètre fondamental tout à l'heure, c'est l'inverse du temps de cohérence du condensat. Donc gamma J, donc, c'est le temps d'amortissement, c'est le taux d'amortissement, c'est pas le temps, c'est le taux, c'est la probabilité d'amortissement par unité de temps de la cohérence entre l'état 1 et l'état 2. Ça c'est l'état 1 et ça c'est l'état 2. Alors on voit que la cohérence entre 1 et 2 s'amortit avec un temps gamma J sur 2 et elle est coupée à la différence de population par la transition de Rabi. Par la transition à deux photons. W', la différence de population entre les deux états, est couplée, alors je m'excuse ici, c'est V, bien sûr, est couplée à la cohérence par la fréquence de Rabi, et vous remarquez que par rapport aux équations de bloc ordinaire de la résonance magnétique, par exemple, il n'y a pas de terme de relaxation longitudinale, il n'y a pas un terme qui décrit que la différence de population entre 1 et 2 est amortie par des transitions de relaxation de type T1 entre 1 et 2. Dans ce problème-là, on n'a pas de transition directe entre 1 et 2, donc il y a l'absence de terme de relaxation longitudinale dans les équations de bloc optique. Donc elles sont un peu légèrement différentes. Il n'y a pas de terme en moins W sur T1 qui décrirait la disparition de la différence de population par relaxation. Alors, ces équations, on va essayer de les résoudre. On va d'abord essayer de les résoudre dans le régime des faibles intensités. Faible intensité pompe. Alors, dans le régime des faibles intensités pompes, ça veut dire que le gain GJ de l'onde de matière est beaucoup plus petit que gamma J, le temps d'amortissement de la cohérence, et que le gain optique aussi, on va voir, va être tout petit, et que l'amplitude du faisceau sombre va augmenter de manière négligeable dans le volume du condensat, et on pourra négliger la variation de oméga liée à l'amplification. Donc dans les équations de bloc optique qui sont ici, oméga pourra être considéré comme une constante. On n'aura pas à tenir compte de la variation de oméga. Ça simplifie considérablement. Alors, si tel est le cas, la résolution des équations de bloc est triviale. C'est un système de deux équations différentielles linéaires. On sait que leur solution est de la forme d'une superposition de deux exponentielles. Donc la solution des équations de bloc est une somme de deux exponentielles et puissance lambda i t, où les lambda i, i égale 1, 2, sont les valeurs propres de la matrice associée à ce système, c'est-à-dire moins gamma j sur 2, moins oméga, oméga 0. On calcule le discriminant de cette équation au second degré qui donne les deux valeurs lambda, et on trouve que le discriminant est négatif, c'est-à-dire qu'il y a une partie imaginaire dans la valeur propre, le valeur propre complexe conjuguée, si oméga est suffisamment grand. Donc, si oméga est supérieur à 4 gamma j, à ce moment-là, les deux valeurs propres de cette équation sont complexes conjuguées l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une oscillation amorphie, et ça c'est Rabi, c'est l'oscillation de Rabi. Si, par contre, oméga est plus petit que 4 gamma j, le discriminant est positif, les deux valeurs propres sont réelles, et on a donc une superposition de deux exponentielles amorties. À ce moment-là, on a un amortissement pur. D'ailleurs, on peut aller un peu plus loin et étudier la limite où oméga est très très petit devant gamma j. Si je prends oméga très très petit devant gamma j, ça veut dire que nous allons voir que les constantes de temps sont beaucoup plus lentes. Et si je prends cette équation-là, la première équation, je m'aperçois gamma j qui est ici, qui est donc très très grand, devant oméga, et je m'aperçois que je peux à ce moment-là, la cohérence, qui est très amortie, va suivre adiabatiquement la différence de population. Donc dans cette équation, je peux négliger le terme en V point, à ce moment-là ça devient une équation algébrique, et je peux donc calculer à chaque instant W, V en fonction de W. Petit V suit adiabatiquement l'évolution lente de W. C'est ce qu'on appelle une élimination adiabatique. À ce moment-là, je peux écrire V égale moins 2 gamma sur, moins 2 oméga sur gamma W. Et si je reporte cette expression de V dans la deuxième équation, j'obtiens W prime égale moins 2 oméga carré sur gamma J W. Ce qui me montre à ce moment-là que W, la différence de population de ces deux états, tend vers zéro avec une constante, avec un taux 2 oméga 2 sur gamma j. Donc si j'ai gamma j très très grand devant oméga, j'ai une décroissance exponentielle. Le condensat va se vider exponentiellement avec une probabilité de transition par unité de temps qui n'est autre que la formule donnée par la règle d'Ordre de Fermi. En effet, vous reconnaissez dans le taux d'amortissement 2 oméga 2 sur gamma, oméga carré, qui est le carré de l'élément de matrice de la perturbation entre 1 et 2, divisé par gamma j. Qu'est-ce que c'est gamma j? C'est la largeur de l'état final, et 1 sur gamma j, ça peut être considéré comme la densité d'état. Il y a un état sur un intervalle gamma j, donc 1 sur gamma j, c'est une densité d'état. Et donc oméga 2 sur gamma j, c'est le carré de l'élément de matrice qui multiplie une densité d'état, et vous pouvez vérifier aisément que cette formule n'est rien d'autre que la règle d'Ordre de Fermi. Donc ça répond à la question que posait Chris Westbrook dans un cours précédent. Pour décrire dans ce phénomène, au moyen de la règle d'Ordre de Fermi, pour parler de section efficace, pour parler de probabilité de transition par unité de temps, il faut être à très basse intensité. Et ce qui détermine la basse intensité, c'est la comparaison de la fréquence de Rabi à deux photons avec la largeur gamma j de l'état final, c'est-à-dire que l'inverse du temps de cohérence du condensé. Bien, donc ceci est bien compris, et on passe maintenant donc à une situation où le laser pompe est plus intense. À ce moment-là, je ne peux plus considérer dans les équations précédentes oméga comme une constante, et il faut évidemment que j'introduise une équation supplémentaire m'exprimant comment oméga varie au cours du temps. Donc il faut maintenant tenir compte de la variation d'oméga avec le temps et utiliser une équation qui nous donne oméga point. Alors, revenons à la physique. Le nombre de photons laser dans le volume du condensat évolue au cours du temps. Et pourquoi il évolue? Il y a trois causes de variation temporelle de NP, N'P. D'abord, il y a des flux, il y a des photons qui arrivent du laser et qui rentrent dans le volume. Il y a un flux d'entrée. Ensuite, il y a un flux de sortie. Les photons ne restent pas dans le volume du condensat, ils sortent à la vitesse C et ils mettent un temps pour sortir qui est L sur C, un temps très court. Donc il y a un flux de sortie. D'autre part, il y a des nouveaux photons qui apparaissent par suite du processus d'amplification, par suite de la diffraction de l'onde pompe par le réseau de densité associé à l'interférence entre l'onde de matière et le condensat. Donc il y a trois termes maintenant qu'il faut étudier séparément. Regardons d'abord les deux premiers. Termes décrivant l'évolution du nombre de photons dans le volume du condensat, du flux d'entrée et de flux de sortie. Alors, le flux d'entrée, c'est une constante, qui s'appelle φ0. Et la manière dont le condensat se vide, dont le nombre de photons disparaît dans le volume du condensat à cause de la sortie, c'est moins N'P divisé par le temps de sortie, qui est L sur C. Donc c'est moins C sur L, N'P. Et je peux toujours écrire φ0, qui est une constante, comme C sur L, une autre constante N'0. Et à ce moment-là, je trouve que j'aurai, pour les deux premiers termes, C sur L qui multiplie N'0 moins N'P, ça veut dire que s'il n'y avait pas d'autre, s'il n'y avait pas d'amplification, en régime stationnaire, j'aurais dans le condensat N'0. Donc N'0, c'est un sens physique clair, c'est le nombre de photons qu'il y a dans le condensat s'il n'y a pas d'amplification, résultant d'un régime stationnaire entre l'entrée et la sortie. D'accord? Donc en absence d'amplification, j'aurai à l'équilibre N'P égale N'0. Si j'augmente l'intensité du faisceau sombre, bien sûr, j'augmente N'0. Alors, les termes décrivant l'amplification. Ils proviennent de quoi? Ils proviennent du fait qu'un faisceau pompe peut être diffracté par le réseau de densité de la direction K0 à la direction KI. Et toute diffraction d'un faisceau pompe par le réseau de densité fait passer un atome de l'état 1, K égale 0, à l'état 2, K égale KJ. Et ça veut dire que chaque fois qu'un atome passe de l'état K égale 0 à l'état K égale KJ, c'est-à-dire toutes les fois qu'un atome passe de 1 à 2, il y a un photon qui apparaît dans le condensat, un photon K'0. Alors, quand un atome passe de l'état 1 à l'état 2, W augmente de 2 unités, puisque ρ de 2 moins ρ 1 augmente d'une unité. Maintenant, attention. Rho est normalisé à l'unité, donc pour le normaliser au nombre total d'atomes, il faut multiplier rho par N0, ou N0 le nombre total d'atomes. Donc, chaque diffusion de Bragg augmente N0W, qui est N2 moins N1, de plus 2. D'accord? Donc, pour avoir le nombre de photons nouveaux qui apparaissent sur le profil d'amplification, N' indice P point amplification, c'est N0 sur 2 que multiplie W point. Donc, quand W augmente, le nombre de photons pompe, le nombre de photons sombres dans le volume du condensat augmente. Donc, j'ai N'P point, la variation D sur DT de N'P due au processus d'amplification, c'est N0 sur 2 grand oméga W. Alors, j'ai maintenant les trois raisons, les trois vitesses de variation, et la vitesse de variation de N'P, c'est D sur DT de N'P égale C sur L N'0 l'entrée moins C sur L N'P la sortie plus N0 sur 2 oméga V l'amplification. Alors, vous voyez que là, c'est utile d'avoir exprimé N'P en fonction d'oméga parce que je veux travailler soit seulement avec N'P, soit avec oméga. Ces deux variables, oméga et N'P, sont très liées. Donc, je vais prendre oméga parce que c'est oméga qui apparaît dans les équations de Bloch. Donc, je vais remplacer N'P par oméga. Et la dérivée de N'P par rapport au temps, c'est la dérivée de oméga 2 par rapport au temps, c'est donc 2 oméga, d oméga sur dt, c'est 2 oméga oméga point. Donc N'P point, c'est V sur R1 6 pi C lambda bar 2, 2 oméga oméga prime égale C sur N. Alors N prime 0, je reprends ce terme-là, je remplace oméga 2 par oméga prime 0 par oméga 0 carré. Oméga 0, c'est la fréquence de Rabi associée à N prime 0, moins oméga 2, plus N0 sur 2, oméga V. Et j'ai une équation maintenant qui va me donner oméga point. Alors, tant que oméga n'est pas devenu très grand devant oméga 0, donc je suis au début de la phase d'amplification, oméga est proche d'oméga 0, et je peux remplacer oméga 0,2 moins oméga 2 par oméga 0 moins oméga qui multiplie oméga 0 plus oméga, c'est-à-dire par 2 oméga, oméga 0 moins oméga. Donc à ce moment-là, je peux simplifier partout par 2 oméga, et j'obtiens une équation pour oméga point, qui est oméga point, égale C sur L, l'entrée, la sortie, plus l'amplification. Et l'amplification dépend de V. Donc vous voyez, l'équation sur oméga point dépend de V, et l'équation sur V dépend de oméga, c'est des équations couplées des trois paramètres V, W et oméga. Je peux encore aller un cran plus loin. Alors, attendez, je laisse ceci ici. Alors, vous voyez ici apparaître N0 sur V. Et N0, je peux l'écrire Rho0 V, Rho0 LS. Et V, c'est LF. Donc, ça va me simplifier des quantités, là. Et j'obtiens l'équation suivante. L'équation précédente, je peux la réécrire sous la forme oméga point égale C sur L, je multiplie oméga 0 moins oméga plus GJ sur 2 V. Donc ça, c'est les équations couplées, où GJ, donc obtenu à partir de l'équation précédente, c'est N0, le nombre d'atomes dans total, que multiplie R1, le taux de diffusion relé, 3 sur 4 pi, lambda par 2, lambda 2, pardon, pas lambda, lambda 2 sur R. Et vous reconnaissez le nombre d'atomes du condensat, R1, le taux de diffusion relé, et lambda 2 sur R, c'est l'angle solide de diffraction dans la direction perpendiculaire. Et ça, ce n'est rien d'autre qu'un facteur de près que le coefficient de gain que j'ai introduit dans les cours précédents, le coefficient de gain de l'onde de matière. Et donc c'est intéressant, c'est sympathique de le voir apparaître ici comme coefficient de V dans l'équation qui donne oméga point. Voilà. Alors maintenant, en principe, ce sont ces deux équations couplées qu'il faut résoudre. Alors, c'est là que je reviens à ce que j'ai dit au tout début de cette séance. On est dans une situation opposée à celle qu'on rencontre habituellement dans la théorie du laser, parce que maintenant, le taux d'amortissement le plus rapide apparaît sur le champ, et non pas sur les atomes. En effet, le taux d'amortissement, oméga point égale moins oméga ici, c'est moins C sur L, et C sur L, c'est très court, parce que le condensat a quelques microns, et les photons s'échappent au bout d'un temps extrêmement court. Donc, une approximation qu'on peut faire, c'est dans cette équation. Comme ceci est très grand, C sur L est très grand, on peut négliger oméga point. Et si on néglige oméga point, à ce moment-là, on a une équation algébrique qui va me donner oméga en fonction de V. Et si je reporte oméga en fonction de V ici, je vais avoir deux équations où il n'y aura plus que V et W. Donc on va éliminer adiabatiquement le champ. Élimination adiabatique du champ. Je néglige ce terme. Je néglige ce terme. Et j'ai donc oméga égale oméga 0 plus GJ sur 2V qui multiplie L sur C. Oméga égale oméga 0 plus GJ sur 2V. Je reporte dans l'équation V. Alors là, en principe, je vais obtenir des équations non linéaires. Mais là encore, je peux faire je peux étudier uniquement le début, le démarrage du processus. Je vais supposer qu'au tout début, le nombre d'atomes transférés de 1 à 2 est suffisamment petit pour que je puisse considérer que W n'a pas beaucoup changé. Au début, je peux négliger la déplétion du condensat, je peux donc remplacer ρ 1,1 par 1, ρ 2,2 par 0, c'est-à-dire prendre W égale moins 1. Donc, si je suppose T suffisamment petit pour qu'on puisse négliger la déplétion du condensat, je peux remplacer W par moins 1 dans cette équation, et j'obtiens à ce moment-là, pour l'équation, une fois que j'ai éliminé adiabatiquement le champ, je l'écris ici, V point égale GJ moins gamma J sur 2, V plus oméga 0. Alors, je rappelle, cette équation donc, a été établie, elle n'est valable que pour des temps suffisamment proches de l'instant initial pour que le condensat n'ait pas été encore vidé. Évidemment, si on attend plus longtemps, le condensat va être vidé, il faudra en tenir compte. Mais vous voyez alors seulement que cette équation est remarquablement simple, et elle montre que V point, que V va croître ou décroître suivant le signe de GJ et gamma J. Si GJ est plus grand que gamma J, la cohérence entre 1 et 2 va se mettre à croître de manière exponentielle. Si GJ est plus petit que gamma J, ça va s'amortir. Donc, l'interprétation de GJ comme coefficient de gain et de gamma J comme coefficient de perte est confirmée de manière spectaculaire par cette équation. D'accord ? Et il y a un terme source qui est oméga 0, qui est le champ qui rentre. Alors, supposons d'abord gamma J, GJ, plus petit que gamma J. Donc, premièrement, je suppose GJ plus petit que gamma J. À ce moment-là, la solution de cette équation va s'amortir et va tendre assez rapidement vers une valeur stationnaire qui est 2 oméga 0 sur GJ moins gamma J. Il faut bien sûr vérifier que cette grandeur est suffisamment petite pour qu'on puisse négliger la déplétion du condensat, pour que ça soit compatible avec l'approximation que j'ai faite auparavant. Donc, si VJ tend vers cette valeur, donc je connais VJ, VJ est donné par 2 oméga 0 sur gamma J moins GJ, et si je reporte maintenant cette valeur dans l'expression d'oméga, rappelez-vous que l'expression adiabatique d'oméga, c'est oméga égale oméga 0 plus GJ sur 2 V. Si je pense à la valeur de V que j'ai obtenue dans cette équation, j'obtiens que oméga égale oméga 0 facteur de 1 plus GJ sur gamma J moins GJ, c'est donc oméga 0 gamma J sur gamma J moins GJ. Alors, j'ai oublié de dire aussi, je le rappelle ici, que ce traitement est très approximatif parce que j'ai négligé tous les effets de propagation, tous les effets de diffraction, et j'ai remplacé le champ par sa valeur moyenne dans le volume du condensat. J'ai pas réellement utilisé des équations de Maxwell-Bloch. J'ai remplacé le champ par un champ moyen. Une approximation qui est tout de même couramment effectuée. Mais si je regarde cette équation, je m'aperçois que oméga égale oméga 0 fois gamma J sur gamma J moins GJ, on en déduit que le champ entrant qui était oméga 0 devient oméga 0 fois gamma J sur gamma J moins GJ. Donc le champ sonde est amplifié par le facteur gamma J sur gamma J moins GJ. Donc l'amplification du champ sonde est donnée par ce facteur que je pourrais écrire 1 plus gamma J plus GJ sur gamma J moins GJ. Et si je suis à la limite où GJ est très petit devant gamma J, j'ai donc le coefficient d'amplification sur le champ, c'est 1 plus GJ sur gamma J. Donc le champ est amplifié et multiplié par un facteur 1 plus quelque chose. Donc, GJ sur gamma J, c'est le coefficient d'amplification. Alors, je vais vous montrer que ce terme-là a un sens physique très clair, et j'aurais pu le trouver directement. En effet, qu'on est à faible intensité, comment on peut calculer le gain? Le gain sur le nombre de photons, c'est 1 plus ρ0 L sigma gain. Et sur leur champ, c'est 1 plus 1 demi. 1 demi provient du fait qu'on s'intéresse au champ et non pas au nombre de photons. Donc le gain d'amplitude, on peut l'écrire 1 plus 1 demi fois ρ0 L sigma gain, où ρ0 est la densité d'atomes du condensat, L la longueur traversée par le faisceau, et sigma gain la section efficace de gain. Qu'est-ce que c'est que la section efficace de gain? C'est la section efficace pour qu'un photon arrivant sur un atome par émission induite donne deux photons. Donc la section efficace de gain, c'est l'inverse de la section d'absorption, c'est la section d'amplification par émission induite. Alors, comme je connais GJ, de cette formule, 1 plus 1 demi de rho 0 L sigma gain, je remplace GJ par sa valeur, j'en déduis que sigma gain, c'est 2 GJ sur gamma J rho 0 L, c'est donc 2 sur rho 0 L, 1 sur gamma J, et GJ qui est ici, c'est rho 0 V, M0 c'est rho 0 V, R1, 3 sur 4 pi, lambda 2 sur S. Alors, je vois apparaître rho 0 LS qui est le volume, qui simplifie avec le volume, rho 0 simplifie, et j'obtiens pour sigma gain une expression très simple, 3 lambda 2 sur 2 pi, qui vous rappelle des choses, c'est la section efficace à résonance, R1 sur gamma J. Donc la section efficace de gain, c'est 3 lambda 2 sur 2 pi, R1, le taux de diffusion Rayleigh divisé par gamma J. Alors je vais vous montrer que cette formule a une interprétation physique transparente, très très claire. Je reviens à un traitement type atome habillé. Il y a deux états qui sont très proches l'un de l'autre. L'état atome dans l'état fondamental G avec une impulsion 0 et N0 plus 1 photon laser pompe incident. Si un photon est absorbé, je passe de G à E, N0 plus 1 à N0, et l'impulsion du photon est transférée à l'atome qui devient K0. Donc les états G, N0 plus 1, 0 et N0, K0 sont à une distance H bar delta l'un de l'autre et sont couplés de manière par la fréquence de Rabi du faisceau pompe, oméga 1. Et puis, la diffusion du faisceau sonde peut être interprétée dans le formalisme de l'atome habillé comme une transition de l'état G M0 plus 1, 0 vers l'état G, le même un photon de laser de moins, pompe, et puis KJ, je paye vers KJ égale K0 moins KI. Alors, à cause de la fréquence de Rabi oméga 1 du faisceau pompe, ces deux états sont couplés et cet état-là est contaminé par celui-là avec un taux de contamination proportionnel à la fréquence de Rabi divisé par le désaccord, par oméga 1 sur delta. Et l'amplification se fait, je redonne ce schéma, l'amplification se fait entre cet état qui est initialement une population de l'ordre de 1, et cet état qui est initialement vide. Et elle peut se faire, parce que ce n'est pas un état complètement G, c'est un état G contaminé par un petit peu d'état E, et c'est ça qui donne la stabilité radiative à cet état. Autrement dit, je suis en train de faire ici la théorie d'un laser Raman, parce que l'amplification sur la transition KI, ce n'est rien d'autre qu'une amplification par effet Raman. Mais un effet Raman entre deux états, qui ont le même état interne, mais qui diffèrent par l'énergie de recul. C'est une amplification Raman sur une résonance induite par le recul. Donc, l'amplification se fait sur la transition entre l'état Gn0 plus 1, 0 contaminé, c'est-à-dire Gn0 plus 1, 0 bar égale Gn0 plus 1, 0 moins oméga 1 sur 2 delta, le coefficient de contamination, et N0 K0, et l'état Gn0 Kj. Alors, quelle est la force d'oscillateur de cette transition? D'abord, si c'était une transition normale, la section efficace serait 3 lambda 2 sur 2 pi. Mais sa force d'oscillateur est très faible parce que la transition ne se fait qu'à cause de la contamination. Donc la force d'oscillateur, elle est égale au poids de E dans l'état initial, c'est oméga 1 carré sur 4 delta 2. Et quelle est la largeur de Ray? Là, je m'excuse, il y a un lapsus. La largeur de Ray, cette Ray est très étroite parce que c'est une transition entre un état G contaminé et un autre état G. C'est un état 2, l'état 1, et la largeur de la transition, c'est gamma J, le taux d'amortissement de la cohérence entre 1 et 2. Et à ce moment-là, je comprends la structure de sigma gain. Sigma gain qui est écrit ici, je peux le réécrire. je rappelle que R1, c'est gamma oméga 1 sur 2 delta au carré, qui est ici. Je remplace R1 par gamma oméga 1 carré sur delta, 4 delta 2. Et je m'aperçois que sigma d'un peut être écrit sous la forme 3 sur 2 pi lambda 2, que multiplie oméga 1 sur 2 delta au carré, que multiplie gamma sur gamma j. Et ces trois facteurs sont simples à comprendre. 3 lambda 2 sur 2 pi, c'est la section efficace à résonance d'une transition de force d'oscillateur 1. La transition qui sert d'amplification n'a pas une force d'oscillateur 1, mais elle a une force d'oscillateur oméga 1 carré sur k delta 2. Donc ça, c'est là le facteur de réduction dû au fait que le facteur de, que la force d'oscillateur n'est pas égale à 1. Et le troisième facteur, c'est un facteur lui au contraire de gain, c'est que l'émission sur l'amplification sur cette transition se fait pas sur une largeur gamma, elle se fait sur une largeur gamma j. Donc l'amplification est concentrée par un facteur gamma sur gamma j. Donc je m'aperçois que la section efficace de gain, donc c'est la section efficace normale, un facteur de réduction dû à la force d'oscillateur et un facteur de gain lié à la largeur de ray. Alors, je passe maintenant, on augmente GJ et on arrive à GJ de l'ordre de gamma J. À ce moment-là, je ne peux plus faire le développement limité que je faisais tout à l'heure. Et le coefficient de gain que j'avais calculé tout à l'heure, qui est gamma J sur gamma J moins GJ, que j'ai écrit 1 plus GJ sur gamma J moins GJ, à ce moment-là, quand je fais un développement de cette quantité, c'est 1 plus GJ sur gamma J, plus GJ sur gamma J au carré, plus GJ sur gamma J au cube, plus etc. Quand GJ est tout petit devant gamma J, je peux me limiter au premier terme, mais quand GJ et gamma J ne sont plus, GJ n'est plus très petit devant gamma J, je vois apparaître une série infinie ici, qui va me décrire les effets d'ordre supérieur à 2, 3 photons. Donc, l'expression que j'ai obtenue ici est une expression qui devient non perturbative au voisinage de GJ égale gamma J. Enfin, quand j'arrive au seuil, je m'aperçois que le gain devient infini, et que à ce moment-là, la vitesse de croissance, l'amplitude du champ sonde croît exponentiellement. Évidemment, cette situation de croissance exponentielle ne peut pas durer parce que à ce moment-là, le condensat se vide et l'approximation de déplétion négligeable du condensat n'est plus valable. Et à ce moment-là, les équations, il faudrait les reprendre pour étudier de manière plus précise ce qui se passe à ce moment-là. Donc, vous voyez que cette résolution approchée des équations couplées Bloch et Maxwell, en quelque sorte, me permet de comprendre ce qui se passe. Et je voudrais terminer, dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais terminer cette séance en vous parlant maintenant de l'expérience de MIT. Alors, c'est une expérience qui vient juste d'être publiée il y a 2 semaines, dans le numéro du 13 novembre de PRL. Auparavant, je n'avais que un préprint. Alors, comme toujours, on a 2 faisceaux laser qui attaquent le condensat, le faisceau pompe et le faisceau sonde. Les polarisations sont parallèles à l'axe du condensat de manière à éviter les effets de superradiance spontanée. On veut retarder, pouvoir augmenter l'intensité du faisceau pompe sans être gêné très vite par l'apparition du seuil de superradiance spontanée. Et ce qu'on fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent la transmission du faisceau laser sonde pour diverses valeurs de l'intensité du faisceau pompe. Et aussi pour diverses valeurs de l'intensité du faisceau sonde. Alors, je voudrais vous montrer les résultats sur le transparent suivant. Peut-être je vais les mettre là-bas et puis les commenter ici. Alors, les courbes qui sont cette figure sont normalisées par l'intensité du faisceau laser sonde. Vous voyez que le faisceau laser pompe, qu'il appelle le faisceau habillant, est appliqué et puis coupé, et le faisceau pompe, le faisceau sonde est appliqué comme ceci. Et on s'aperçoit que quand le faisceau pompe est présent, la transmission du faisceau laser sonde est plus importante que 1, et cette courbe-là, la courbe la plus élevée ici correspond à une intensité de 0,1 milliwatt par centimètre carré, c'est la plus faible, puis on augmente à 1,5 milliwatt par centimètre carré, c'est la courbe du milieu, et 5,7 milliwatt par centimètre carré, c'est cette courbe-là. Et vous voyez clairement, apparaître un régime exponentiel d'amortissement et vous voyez apparaître la précession de Rabi dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez qu'on peut définir un gain uniquement à faible intensité et le gain est de l'ordre de 2.8. Et ces courbes expérimentales sont comparées avec la solution des équations de bloc optique pour les valeurs correspondantes des paramètres. Vous voyez que le phénomène est bien compris. Et on voit bien les deux régimes, oscillation de Rabi et amortissement pur. Alors, il y a une expérience aussi intéressante qui a été faite, qui consiste à faire ce qu'on peut appeler une spectroscopie pompe-sonde du réseau de densité. Alors, je vais donner la figure là aussi. Alors, le principe de l'expérience est le suivant. On crée d'abord un réseau de densité. Et comment on fait un réseau de densité? On fait une diffusion de Brown pendant un temps fini, c'est-à-dire qu'on crée une onde de matière qui agit, qui interfère avec le condensat, qui donne un réseau de densité. Puis on coupe le faisceau sonde. Et on applique le faisceau pompe qui est diffracté par le réseau de densité. Et on regarde la diffraction du faisceau pompe en fonction du temps. Et ça va donner une mesure directe par spectroscopie pompe-sonde de l'évolution du réseau de densité. Donc on crée le réseau de densité, on coupe le faisceau sonde, on applique le faisceau pompe et on regarde la diffraction du faisceau pompe et qui donne un signal proportionnel à l'amplitude du réseau de densité. Donc on étudie la variation temporelle du réseau de densité. Donc le faisceau sonde est appliqué pendant 100 microsecondes et ça permet de transférer 5% des atomes dans l'état KJ. On coupe le faisceau sonde et on regarde l'évolution temporelle de la diffraction du faisceau pompe par le réseau de densité. Et ça permet d'étudier la dynamique du réseau de densité, qui est marquée ici. Et on a donc trois courbes, intensité faible en pointillé, en trait tiré, intensité un peu plus grande des pointillés, et intensité forte ici. Et vous voyez très bien que ce qui est intéressant ici, c'est la pente à l'origine de cette courbe. Parce que la pente à l'origine de cette courbe, donc la variation voisinage de t égale 0 du réseau de densité. La variation de V, l'élément de la matrice densité, entre rho 1, 2, entre 1 et 2. Et on peut porter ici la pente à l'origine de cette courbe, qui est le taux de croissance initial, en fonction de l'intensité du faisceau laser-pompe normalisé de manière convenable. Et vous voyez que pour les intensités faibles, la pente est négative, et puis elle s'annule, et elle change de signe, c'est-à-dire ce qu'on mesure directement là, c'est le coefficient Gj moins gamma J sur 2. D'accord? Et on voit qu'au-dessus d'un certain seuil, correspondant à ce point, au-dessus d'un certain seuil, l'onde de matière est amplifiée, alors qu'en dessous, elle est absorbée, elle est amortie. Et de la valeur correspondante du taux de diffusion Rayleigh calculé pour cette valeur-là, on peut calculer le gamma J correspondant et on trouve que le gamma J est tout à fait cohérent avec le temps de cohérence du condensat mesuré par les expériences de diffraction de Bragg dont je vous ai parlé l'année dernière. Donc il y a une compréhension parfaite donc du phénomène et cette expérience montre qu'on peut, par des expériences pompe-sonde, étudier vraiment la dynamique des réseaux de densité qui apparaissent dans l'interaction d'un condensat avec des ondes lumineuses incidentes. Il y a d'autres expériences qui ont été faites dans cette référence que je n'ai pas discutée ici, qui sont liées au fait que l'amplificateur étant à bande très étroite, l'indice de réfraction varie très très vite avec la fréquence, et que la vitesse de groupe de la lumière dans un condensat de ce type est tout à fait modifiée de façon spectaculaire, et qu'on obtient des vitesses apparentes qui sont de l'ordre de quelques centimètres par seconde. Il y a eu plusieurs expériences dans les années qui viennent s'écouler par Lene Howe, par le groupe également de Leo Holberg, qui ont mis en évidence dans des milieux très denses, avec des indices de réfraction qui varient très rapidement en fonction de la fréquence, des phénomènes tout à fait spectaculaires sur la modification de la vitesse de groupe de la lumière dans un tel milieu. Voilà, j'en ai fini donc pour le cours de cette année. Je reprendrai vraisemblablement au début du mois d'octobre l'an prochain, et vraisemblablement, ça sera toujours un cours sur les développements de la condensation de Bose-Einstein. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie.